Vous êtes sur RTL.
On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien, aujourd'hui en France.
Isabelle Langer.
Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver. Au menu ce soir, le mondial de hand féminin. Les Bleus se sont imposés il y a quelques minutes, facilement face à la Slovénie. Dans un instant, nous serons en ligne avec une jeune retraitée, la championne olympique Blandine Dansette, qui sera certainement fière de savoir que la performance de son équipe aux Jeux de Tokyo est plébiscitée comme la plus belle performance d'un sport collectif tricolore cette année dans le sondage Odoxa pour Kenéo et RTL. Nous aurons également un œil du côté de Jeddah en Arabie Saoudite où le Grand Prix de Formule 1 est vraiment perturbé. L'occasion également de parler géopolitique dont on refait le sport ce soir avec notre invitée Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Nous essaierons de comprendre comment les pays du Golfe utilisent le sport pour redorer leur image. Nous parlerons également de la Chine et de ses pratiques plus que discutables pour faire taire ses athlètes. Pékin qui s'apprête à accueillir le monde entier dans 2 mois pour les Jeux Olympiques. Bastien Midol, champion de ski cross, a déjà eu un aperçu du protocole sanitaire qui s'annonce drastique. Il sera au téléphone avec nous en fin d'émission. Pour m'accompagner ce soir, Amaya Cazenave du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Amaya.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Joli programme.
Hein. Oui, c'est costaud.
L'actualité sportive de ce dimanche, Amaya, c'est tout d'abord du football. Bonsoir Quentin Asselin.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Nice est trié par Strasbourg à domicile.
Défaite sèche, 3-0 des Niçois face aux Alsaciens. Ajorque, Diallo et Thomasson sont les bourreaux des Aiglons qui enchaînent une 3e défaite consécutive à domicile.
Claude Puel ne résiste pas au naufrage des Verts contre Rennes.
Les Bretons terrassent Saint-Etienne 5-0 dans leur chaudron. Triplé notamment de Martin Terrier. Rennes est deuxième du classement, Saint-Etienne est dernier. Et donc Claude Puel est ce soir mis à pied. Le coach de Saint-Etienne a reçu une lettre aujourd'hui avant un entretien préalable à un licenciement. Monaco confirme son regain de forme. Victoire 4-0 contre Metz grâce à Diop, Volant, Gelson, Martins et Ben Yedder. Angers s'impose 2-1 face à Reims à l'extérieur. Bouffal et Fulgini permettent à Angers de remonter à une belle 8e place du classement. Lorient continue sa lente descente vers la zone rouge. Défaite cruelle à domicile des Merlus contre Nantes 1-0. Le buteur Willian Cyprien à 10 minutes de la fin de la partie. Autre club en grande difficulté, c'est Clermont. Les Auvergnats s'inclinent 1-0 à Montpellier. But d'Eli Wahi. 6e défaite et un match nul pour Clermont lors des 7 dernières rencontres de Ligue 1. Ils sont ce soir 17e du classement.
À 20h45, Bordeaux reçoit Lyon. Ce sera bien évidemment à suivre dans RTL Foot à partir de 20h. La Formule 1, Quentin, avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite.
Oui, c'est du direct. Drapeau rouge, on est au 16e tour. C'est déjà le 2e drapeau rouge de ce Grand Prix. Bonsoir Frédéric Veil.
Bonsoir.
Alors, avant-dernier Grand Prix de la saison, il y a un duel Hamilton-Verstappen qui est encore relancé.
Oui, et surtout on attend que la course reprenne, c'est surtout ça qui est important. Ça devrait reprendre d'ici 7 minutes très exactement. Et la grande inconnue, c'est que vous l'avez dit, hein, il y a eu 2 drapeaux rouges, la grande inconnue c'est de savoir qui va repartir en tête. Apparemment ce serait Esteban Ocon qui repartirait en pole position devant Hamilton et devant Verstappen, mais apparemment parce qu'il y a des négociations actuellement entre Red Bull, la FIA et Mercedes. En tout cas on attend ce 2e départ, il y a déjà eu 2 drapeaux rouges, on n'a couru que 15 tours. Quand je vous disais que cette saison était exceptionnelle, bon, c'était pas trompé.
Frédéric, on a envie de vous demander des nouvelles de Théo Pourchaire. La voiture du jeune pilote français a été violemment percutée lors du départ des Formule 2.
Oh ouais, alors Théo Pourchaire qui partait 3e sur la grille, vous l'avez dit, a été percuté par le Brésilien Enzo Fittipaldi, hein, le petit-fils de l'ancien champion du monde Emerson Fittipaldi. Il était parti lui en 18e position, il l'a percuté Théo par l'arrière, un choc d'une extrême violence qui nous a fait croire au pire tant le choc était impressionnant. Heureusement les deux pilotes ont été extraits conscients de leur voiture et évacués vers l'hôpital du Roi Fahad. Pourchaire a été transporté par ambulance, le Brésilien Fittipaldi lui par hélicoptère. Théo Pourchaire souffre heureusement que de petites douleurs dans le dos et d'autres douleurs musculaires. Il a passé des radios, fort heureusement il n'a rien de cassé. Et on attend par contre toujours des nouvelles d'Enzo Fittipaldi.
Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve à la fin de cette émission. Quentin, en biathlon, très beau succès du relais féminin en Suède.
Oui, à Östersund, le relais tricolore composé d'Anaïs Chevalier-Boucher, Justine Brezas-Boucher, Julia Simon et Anaïs Bescon s'imposent nettement devant la Biélorussie et la Suède. Seulement 4 fautes au tir, c'est donc une Anaïs Chevalier très satisfaite qui s'est présentée en conférence de presse.
C'est chouette parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé chercher une victoire en relais. Elle fait du bien celle-là. Après, c'est du biathlon et on sait qu'à chaque course, tout est remis à zéro. Et on sait que ce n'est pas parce qu'on gagne le premier relais qu'on va être championne olympique. Enfin, ça se saurait, hein, c'était comme ça. Mais en tout cas, elle donne du baume au cœur. Voilà, donc je pense que ça fait du bien à tout le monde.
Un succès encourageant à 2 mois du début des JO de Pékin. Chez les garçons, Emilia Jacquelin termine 3e de la poursuite.
Le mondial de hand, pas de soucis pour les Françaises contre la Slovénie.
Oui, victoire tranquille, 29 à 18 des joueuses d'Olivier Crumbles contre la Slovénie. Donc la France a également battu l'Angola vendredi soir à 2-10 buts. Prochain match mardi soir contre le Monténégro. Et un petit mot de tennis pour vous dire que la France jouera les barrages contre l'Équateur rapidement.
On revient au handball, bien sûr. Un résultat qui doit vous faire plaisir, Blandine, dans cette belle victoire des Françaises.
Oui, bonsoir à tous. Oui, c'est une victoire qui fait plaisir, comme celle de vendredi. La France est bien partie dans sa compétition et ça fait plaisir. Il reste encore pas mal de matchs, mais c'est de bon augure pour la suite.
Championne du monde 2017, championne olympique à Tokyo, aujourd'hui retraitée. Amaya, une petite question pour Blandine.
Oui, Blandine, quand on voit que ça roule comme ça pour vos anciennes coéquipières, est-ce que vous n'avez pas quelques regrets à être dans votre canapé quand vous les voyez?
Non, j'ai aucun regret d'avoir arrêté ma carrière et justement des petites jeunes qui poussaient sont là et on les voit performer sur le terrain, ça fait vraiment plaisir et je suis contente, je les supporte depuis Nantes où je suis et voilà, j'espère qu'elles vont continuer et aller décrocher une médaille supplémentaire.
Amaya.
Ça serait une déception, pas de médaille. Est-ce que à quel stade vous jugez une performance honorable, acceptable pour ces Bleus?
Non, je pense que l'équipe en est capable. Après, 2 compétitions dans l'année, c'est quand dur. Même compliqué.
Le calendrier a été particulièrement chargé cette saison.
C'est ça, le calendrier. Déjà, la saison Covid l'an dernier a été compliqué. Une préparation difficile cet été, des Jeux Olympiques avec cette belle médaille. Il faut redescendre sur terre après, enchaîner une compétition 5 mois après. Donc c'est compliqué, mais je sens les filles bien parties, je les sens en forme. Il y a beaucoup qui sont très en jambes et très fortes physiquement. Donc j'y crois à une médaille supplémentaire. Mais après, voilà, la compétition est longue encore et il y a de nombreuses équipes qui sont aussi fortes.
Comme disait Olivier Crumbles, de toute façon, le plus difficile, c'est d'aller en demi-finale. Après, on vous connaît, les Bleus.
C'est ça, souvent, les Bleus, on est diesel, on va dire. La première semaine, c'est un peu compliqué. Et puis
là,
après, c'est mieux. Et là, ça commence très, très bien. C'est une formule de championnat du monde qui a été modelée parce qu'il y a 32 équipes cette année. Donc, il y a plus de matchs avec des gros écarts. C'est des poules un peu différentes. Donc, voilà, on verra ce que ça donnera à la fin en espérant que ça continue sur cette lancée parce que la France est bien partie.
Blandine Dansette, restez avec nous. Cette semaine, le sondage Odoxa pour Kenéo et RTL portait sur la rétrospective de l'année 2021. C'est bientôt la saison des récompenses. Hein. Et à la question, quelle est selon vous l'équipe de France de sport collectif? Eh bien, c'est vous, les championnes olympiques de hand, qui arrivez largement en tête des suffrages. Bonsoir Céline Braque.
Bonsoir Isabelle.
Cofondatrice et directrice générale d'Odoxa, c'est un plébiscite pour nos Françaises.
Ah oui, oui, largement, hein, puisqu'elles sont en tête avec 37% l'équipe de France féminine de handball, quand même assez loin devant le deuxième, ou les deuxièmes plutôt, l'équipe de France masculine de rugby, et devant les autres médaillés olympiques, l'équipe de France masculine de handball. Et c'est vrai que c'est un double enseignement. L'intérêt des Français pour le hand qui se renforce, on le voit d'année en année avec les fabuleux résultats des équipes. Et puis le fait que ce soit les filles qui soient en tête. Et c'est vrai que leur titre, là, le premier titre olympique pour le hand féminin a marqué les esprits. Et je pense qu'on a tous ou toutes pendant nos vacances explosé de joie. En même temps que Blandine et ses coéquipières, on a partagé ce moment et ça a fortement marqué les Français.
C'est vrai, Blandine Dansette, c'est quand même un super résultat parce qu'il y avait quand même aussi les volleyeurs, pour qui c'était une première aux Jeux Olympiques. Vous retrouvez comme ça dans ce sondage, voilà, équipe préférée, j'ai envie de dire, des Français. Ça fait chaud au cœur, ça?
Oui, ça fait chaud au cœur, d'autant plus que c'est du sport féminin et c'est vrai que souvent on voit plus les équipes masculines, donc ça fait vraiment plaisir d'être en tête de ce sondage. Je pense que aux Jeux Olympiques, toutes les équipes de sport court ont vraiment performé. On pense aussi à l'équipe de basket, au rugby à 7 féminin, voilà, les garçons en volley, en basket, en handball. Je pense que c'était une belle fête du sport collectif. On était tous fiers et voilà, fiers que tout le monde ait pu ramener des médailles à la maison.
Et si je vous demande quel est pour vous la sportive de l'année, Blandine, vous me dites qui?
La sportive, mais il y en a beaucoup. Mais là, Clarisse Agbegnénou, avec ses 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, a fait quand même fort. Mais voilà, je pense qu'il y a de nombreux sportifs qui ont performé sur l'année précédente. Et voilà, je pense que tout le monde, il n'y a pas une seule sportive à qui on doit féliciter, c'est l'ensemble des sportives.
Mais vous êtes pas mal, parce que Céline Braque, effectivement, Clarisse Agbenienou est aussi plébiscitée dans votre sondage.
Et oui, les Français pensent comme vous, Blandine, puisque effectivement, elle est en tête. Chez, quand on leur demande quelle est la sportive française de l'année 2021, elle est en tête avec 23%. Et c'est vrai qu'elle a le palmarès le plus beau du judo féminin français. Elle est devant Perrine Laffont à 19%, la jeune prodige du ski.
De boss,
et à noter que sur la troisième place du podium, eh bien, nous avons une athlète paralympique, Marie-Amélie Le Fur, recordwoman du saut en longueur 2021. Et elle coiffe d'un point la surfeuse Justine Dupont.
Ah, pas mal. Et chez les garçons?
Alors, chez les garçons, eh bien, c'est un cycliste. Et j'allais dire, quel cycliste?
Notre champion des champions de l'année dernière sur RTL.
Voilà, alors Julien Alaphilippe, donc là on est sur les sportifs, les garçons, et donc Julien Alaphilippe est très largement en tête, il est cité à 26% devant Sébastien Ogier, l'octuple champion du monde de rallye, qui est cité à 16%.
Qui était sur RTL il y a 2-3 semaines.
Voilà, et derrière on a un autre champion de sport mécanique, Fabio Quartararo, qui est cité à 13%. Et on peut dire finalement
premier
que...
Premier champion du monde de MotoGP, on le rappelle.
C'est Fabio MotoGP, c'est le troisième de ce classement pour Quartararo, je trouve.
Parce que c'est un événement assez majeur, inédit dans le sport français, mais oui. Allez-y Céline.
C'est vrai que c'était la première fois. Et ce que j'allais dire, c'est revenir simplement quelques instants sur Julien Alaphilippe, parce que finalement son panache marque vraiment les Français, puisque quand on leur dit maintenant vous allez nous désigner le champion ou la championne de l'année, homme, femme confondu, eh bien c'est Julien Alaphilippe qui arrive en tête. Il est cité par 15% des Français, par un peu plus encore quand on est sur les amateurs de sport, il est cité à 18%. Et il est juste devant Clarisse Agbenienou, 13%. Devant Perrine Laffont et Fabio Quartararo, qui sont cités à 9% tous les deux.
D'accord.
Donc le champion des champions est couronné, et c'est Julien Alaphilippe dans ce sondage.
Rapidement, au rang des déceptions, Céline Braque.
Au rang des déceptions, finalement, ce que retiennent le plus les Français, c'est l'élimination de l'équipe de France à l'Euro en huitième de finale face aux Suisses. Voilà, c'est vrai que Deschamps n'avait pas trouvé les clés pour déverrouiller ce match, et ça a déçu 34% des Français. C'est une déception qui l'emporte sur les mauvais résultats du tennis français, qui sont cités par 27% des Français. Et puis, ce sont ces deux déceptions qui sont vraiment très fortement exprimées par rapport à d'autres, comme le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de médailles d'or à Tokyo, que Teddy Riner n'ait eu que la médaille de bronze et pas l'or qu'on attendait, et devant les résultats du PSG, qui sont cités par 11% des Français.
Merci beaucoup, Céline Braque. Merci, Blandine Dansette. Vous allez retrouver vos copines à un moment en Espagne, si elles vont loin?
Je sais pas, pourquoi pas si elles vont dans le dernier carré, mais en tout cas, pour le moment, je suis à la maison, au travail, et je les suis et je les supporte.
Merci beaucoup, Blandine Dansette. Bonne soirée à vous. Et nous, on
Merci
vous donne déjà
vous.
Rendez-vous le 26 décembre pour la rétro de l'année sur RTL, 18h30-20h. Le service des sports a lui aussi élu ses champions de l'année. Vous les découvrirez à cette occasion-là. Allez, restez avec nous, les 19h43. Dans un instant, nous ouvrons un débat sur le mariage sport et géopolitique.
RTL, on refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France. Le sport sur RTL avec Le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
Ça doit aussi nous montrer qu'on peut y arriver sans eux. Certes, il y a beaucoup d'argent, mais cette année, on n'a pas eu de Chine et on a quand même eu un circuit qui a survécu. Donc, est-ce que c'est pas aussi ça l'avenir du tennis?
Lewis Hamilton élève donc à nouveau la voix contre les problèmes des droits de l'homme. Et comme au Qatar lors de la dernière course de Formule 1, Lewis Hamilton portera son casque aux couleurs arc-en-ciel.
C'est une honte ce qui se fait là. 6500 personnes sont mortes sur les chantiers. Moi je pense qu'un Français a rien à foutre là-bas. Alors vous nous dites de pas y aller. Oui les gars, je vous dis de pas y aller parce que on peut pas jouer au foot sur les cadavres.
La Chine, l'Arabie Saoudite et le Qatar, que ce soit Alizé Cornet, Lewis Hamilton ou Jean-Luc Mélenchon, tous voient dans le sport un moyen de faire pression ou de défendre une cause juste. Le sport a toujours été une arme pour les pays, un instrument utilisé à des fins diplomatiques. Alors sport et géopolitique font-ils bon ménage? Bonsoir Carole Gomez.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialisé en géopolitique du sport. L'actualité sportive de la semaine est particulièrement marquée par les enjeux géopolitiques. Commençons tout d'abord par la Formule 1 qui se déroule pour la première fois en Arabie Saoudite. On a vu des gestes forts de Lewis Hamilton, comme le disait Frédéric Veil il y a un instant, ou alors même de Sébastien Vettel, hein, qui a lui organisé un événement de karting avec quelques femmes qui ont le droit de conduire depuis 2018. C'est important que ces sportifs-là aussi disent à l'Arabie Saoudite, leur rappellent un petit peu des droits.
Oui, effectivement, c'est important et ça rentre dans une logique beaucoup plus large qui est celle de la mobilisation désormais des sportifs sur des thématiques sociétales. Ou plus exactement, alors qu'il y avait déjà eu un certain nombre d'exemples par le passé de mobilisation sportive, la capacité, la médiatisation de cette mobilisation et le fait que cette mobilisation ne soit pas sanctionnée. Ce qui est particulièrement intéressant dans les exemples que vous venez de citer, c'est que non seulement ces pilotes-là, en l'occurrence Sébastien Vettel et Lewis Hamilton, le font. Il y a une forte publicité autour de ces sujets-là et surtout leurs écuries ou plus largement la fédération internationale ne vient pas les sanctionner et donc permet aussi de faire bouger, de faire avancer les lignes sur un certain nombre de sujets. Ce qui sera vraiment intéressant de voir, c'est un peu comment est-ce que les choses vont évoluer. Cette publicité, ce coup d'éclat est intéressant et important. La vraie question qui va se poser désormais, c'est quelles vont être les suites.
Lewis Hamilton dit quand même « Je me sens pas bien ici, je suis là parce que voilà, mon sport a choisi d'être ici, mais je suis pas à l'aise en Arabie ». C'est très très fort ça, de le dire quand on est en Jeddah.
Oui, complètement. Et ça, c'est quelque chose dont il ne se cache pas, dont ça fait un certain nombre de mois qu'il parle de ce nouveau calendrier qui désormais et passe aussi par l'Arabie Saoudite depuis cette année. Et donc, on sait ce message, il va être diffusé, écouté, entendu. Et donc, il va être aussi intéressant de voir comment est-ce que les organisateurs vont essayer de rebondir face à cette logique-là d'une part et d'autre part aussi comment est-ce que va s'inscrire sur le long terme la Formule 1 en Arabie Saoudite, savoir si c'est quelque chose qui va faire pchit ou si au contraire c'est quelque chose qui va entraîner encore plus une mobilisation de l'Arabie Saoudite sur les sujets sportifs. Et on sait depuis quelques années que c'est désormais un axe stratégique qu'ils sont en train de développer, notamment avec l'organisation de différents grands événements sportifs sur leur sol.
Oui. Amaya Cazenave.
Il y a la Coupe du Monde à venir, il y a ce circuit, ce Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept qu'on entend souvent de sport washing, sorte de détournement voilà, de certains pays pour qu'on essaye de parler d'eux en bien, plutôt qu'on s'intéresse à leurs problèmes?
Oui, alors pour arriver à définir ce concept de sport washing, il faut en définir un autre qui est celui du soft power. Le soft power, c'est comment est-ce que par le biais du sport, en l'occurrence, enfin par le biais d'un outil, vous allez arriver à donner une image positive de votre pays et donc du coup permettre de venir rentrer dans le cercle des nations. C'est Joseph Nye qui en 1990 a défini ce concept-là et qui l'opposait au hard power, le hard power étant la puissance militaire, la puissance économique qui va venir permettre d'imposer votre volonté à d'autres États. Le soft power, vous allez passer exactement. Vous allez passer par le sport, par la culture, par la gastronomie. Et en fait, depuis une vingtaine d'années désormais, il y a un certain nombre d'États qui investissent massivement sur ce sujet. La France, par exemple, les États-Unis, l'Angleterre, mais également d'autres États comme le Qatar, la Chine ou l'Arabie Saoudite. Et donc, petit à petit, on a pu voir arriver sur la scène sportive un certain nombre d'autres acteurs qui n'étaient pas traditionnellement intéressés ou au cœur de la géographie du sport. On a vu évidemment le Qatar arriver à partir des années 2000 et notamment avec ce tournant des années 2010. Et on a vu plus récemment l'Arabie Saoudite arriver à partir de 2015 et se saisir d'un certain nombre de leviers, accueil de grands événements sportifs, sponsoring, tentative de rachat de différents clubs ou rachat de différents clubs comme on l'a vu par exemple à Newcastle. Et à ce titre, leur objectif est d'arriver par le prisme du sport, alors à atteindre un certain nombre d'objectifs, qu'ils soient diplomatiques, économiques, diversification de leurs ressources, mais également une façon pour eux d'arriver à être présents sur la scène médiatique pour de bonnes raisons et non pas pour des scandales de journalistes assassinés dans un consulat par exemple.
Voilà,
par ce prisme du sport, l'Afkar Khashoggi, exactement, que vous avez deviné. Et l'idée est donc par le prisme du sport arriver à donner donner une image positive, dynamique, et surtout, ça permet de donner, de donner un autre visage du sport. Au moment où l'Arabie Saoudite a décidé, a candidaté et a obtenu l'obtention du Dakar 2020, et pour les séquences qui ont suivi, on a pu voir des images de l'Arabie Saoudite, des paysages absolument fabuleux qui étaient mis en avant.
Et donc, quelque part, on parlait peut-être un peu moins.
C'est ça.
Effectivement, si vous aimez le désert, vous êtes servi là-bas. C'est, vous voyez un mini Petra quand vous êtes à Madain Saleh. Mais après, je partage pour le coup le sentiment de Lewis Hamilton. C'est pas un pays où on se sent forcément très à l'aise, surtout quand on est une femme. Moi, je voudrais parler de la Coupe du Monde au Qatar avant qu'on passe à la Chine. Amnesty International accuse le Qatar de dissimuler la mort de travailleurs étrangers. Au moins 6500 décès selon une précédente enquête. Alors c'est comme l'Arabie Saoudite, on ne peut pas effacer aussi que les droits de l'homme sont bafoués dans ces pays.
Ben effectivement, sur la question du Qatar, il était intéressant de noter, ça fait quand même, rappelons-le, l'attribution de la Coupe du Monde a été désignée, on a su la désignation en décembre 2010. Ce qui veut donc dire que depuis 11 ans, on a systématiquement ce débat, cette interrogation qui arrive, et vous citiez à juste titre ce chiffre dramatique des 6500 décès sur le territoire liés à des chantiers, il semblerait en plus que ce soit une fourchette basse, même si pour le coup on a vu un certain nombre d'études d'ONG les années précédentes expliquer à quel point c'était un sujet important sur lequel il fallait se saisir. Et donc depuis 10 ans désormais, et de manière récurrente et de plus en plus fort, un certain nombre d'ONG dénoncent à juste titre la situation des travailleurs, la situation des droits de l'homme, la liberté de la presse dans ce pays-là, et qui, pour le coup, va véritablement se télescoper avec le méga événement sportif qu'est la Coupe du Monde, qui va masculine de football, qui va arriver l'année prochaine en décembre 2022, et qui va donc du coup braquer une lumière crue sur la situation actuellement au Qatar, mais plus largement sur tout ce que on n'aurait pas vu auparavant, s'il n'y avait pas eu ce méga événement sportif. Et pour le coup, la position d'Amnesty me semble assez intéressante, puisque en aucun cas eux ne veulent parler de boycott. Ils n'appellent pas d'ailleurs au boycott du Qatar, parce que précisément ils considèrent que ça peut être un formidable levier, une espèce de pression complémentaire sur les épaules du Qatar pour justement faire avancer un certain nombre de sujets sur la question des droits du travail, sur la question des droits des travailleurs, sur la question du droit des femmes ou sur la législation qui pénalise l'homosexualité.
On a encore du travail, hein. Amaya Cazenave.
Vous parliez à l'instant, pourquoi pas, de boycott. Il a été envisagé, par exemple, un boycott diplomatique des États-Unis pour les Olympiques d'hiver à venir. Est-ce que, si on parle de ce sujet-là, à savoir la Chine, c'est aussi un sujet préoccupant avec cette disparition de Peng Shuai, ce retour plus ou moins orchestré dans les médias. Quelle vision vous avez eue de cet épisode, vous ?
Alors pour le coup, il est important de rappeler que ces appels au boycott, qu'ils soient économiques, sportifs ou diplomatiques, ça fait déjà un certain nombre d'années là encore qu'on en parle. Et on avait d'ailleurs vu l'année dernière un certain nombre, notamment avec ce durcissement des relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine, et notamment les révélations de certains de découvertes de camps de Ouïghours ou de différents scandales qui ont survenu en Chine. On a cette réflexion qui existe depuis déjà très longtemps. Et puis s'est rajouté à cela l'affaire Peng Shuai, au début du mois de novembre dernier, où Peng Shuai étant cette Dennis Woman qui a publié sur Weibo, qui est un peu l'équivalent de Twitter chinois, qu'elle avait été agressée sexuellement et violée par un haut dignitaire du Parti communiste, et que elle connaissait les risques qu'elle prenait, mais qu'elle ne pouvait plus tolérer cette situation et qu'elle était un peu une lanceuse d'alerte. Suite à ça, une disparition, ce message a été effacé, et il y a eu une disparition absolument totale de sa présence sur les réseaux, dont on n'avait plus de nouvelles. Et finalement, il a fallu une très forte mobilisation sur les réseaux sociaux pour justement arriver à la faire, à avoir, obtenir des nouvelles. Et à ce titre, et vous avez tout à fait raison de le signaler, le CIO a été un des interlocuteurs, puisque c'est par lui, c'est par son biais que l'on a vu
on a vu Peng Shuai, mais on a l'impression qu'elle était un peu commanditée. On a vu le patron de la WTA qui gère le tennis, Steve Simon, qui a pris une décision forte cette semaine en voulant suspendre les tournois en Chine. C'est un marché important, hein, c'est la moitié du budget de la WTA. Il appelle d'autres organisateurs à faire la même chose, d'autres, l'ATP, l'ITF et même d'autres dirigeants d'entreprises à le faire. Est-ce que vous pensez que c'est une chose qui peut se faire et quel est le rôle rapidement du CIO là-dedans? Ils ont un peu un double discours.
Alors, pour le rôle du CIO, il est clairement ambigu, puisque à la fois il veut se montrer comme étant un interlocuteur incontournable sur cette affaire-là, mais plus largement aussi, il pense aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont arriver là dans quelques mois, et donc il sait que les relations entre le reste du monde et la Chine sont ô combien compliquées en ce moment, et donc il veut un peu jouer les intermédiaires entre les différents acteurs. Mais en même temps, et vous l'avez rappelé, on a certes vu une photo de Peng Shuai discutant avec Thomas Barr, le président du CIO, mais on n'a pas eu d'informations sur le fait qu'elle était parfaitement libre, qu'elle puisse être en bonne santé, qu'elle n'y ait pas de contraintes sur au sein du lieu où elle réside, et surtout il n'y a eu aucune mention des différentes accusations qu'elle avait portées contre Zhang Guaoli, et donc on n'a aucune idée de qu'est-ce que ces accusations vont devenir. Est-ce qu'elles vont être traitées par la justice ou pas? Et plus largement, sur la question de la WTA, ça c'est un vrai enjeu. Au moment où le Steve Simon a annoncé qu'il décidait de retirer tous les tournois organisés en Chine, ça a été un message extrêmement fort mercredi dernier. Et là, la vraie question, c'est d'avoir... Est-ce qu'il va être suivi? S'il est suivi, la Fédération française de tennis a publié un communiqué jeudi soir expliquant qu'il saluait la décision de la WTA. Mais la vraie question, c'est de savoir est-ce que c'est quelque chose qui va être suivi dans les faits par d'autres institutions et qui donc permettra d'enfoncer un peu le clou et de vraiment engager un bras de fer, ou au contraire la WTA va peut-être se retrouver un peu isolée sur ce sujet, et dans ces cas-là, ça pourrait la mettre en difficulté.
Je vous interromps parce qu'il ne nous reste que 2 minutes et je voudrais quand même accueillir notre dernier invité, Bastien Midol. Bonsoir Bastien.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de ski cross et la semaine dernière, vous avez pris la 3e place de la première étape de Coupe du Monde qui avait lieu à Secret Garden. C'est un des sites des JO de Pékin qui auront lieu du 4 au 20 février. Alors félicitations, belle performance, mais que les conditions étaient spéciales, Bastien. Est-ce que vous pouvez nous raconter assez rapidement comment ça s'est passé ?
Déjà merci. C'était une semaine plutôt compliquée à Secret Garden. Le voyage a été très long pour se rendre déjà jusque là-bas. Je crois qu'on a mis 32-33 heures depuis la France.
Avec des cosmonautes avec vous dans l'avion, hein, c'est ça ?
Déjà dans l'avion, il y avait quelques cosmonautes. Et puis après, là-bas, sur le site...
Les stewards étaient habillés complètement paranoïaques par rapport à la pandémie du Covid. Hein.
Ouais, complètement. De la tête aux pieds, rien ne dépassait. On était des dangers pour eux, je pense. Donc après, mais même sur le site là-bas, c'était pareil, hein, tout le monde, tous les Chinois étaient équipés en cosmonautes et nous surveillaient de près, quoi.
Et vous pensez que ça va être compliqué, les Jeux Olympiques, dans ces circonstances-là, ou alors vous vous adaptez, vous pensez qu'à votre compétition ?
Ça va être compliqué. En fait, nous, on s'est rendu là-bas pour une étape de Coupe du Monde. On appelle ça une pré-olympique. Donc, justement, ils sont censés se servir de ce qui n'a pas été ou de ce qui a été. Donc, nous, la semaine de pré-olympique était compliquée. Mais voilà, j'espère que pour les Jeux, et même je pense que pour les Jeux, ils seront prêts. Et après, à nous de nous adapter et de bien figurer, quoi.
Merci beaucoup Bastien Midol. Désolé, on n'a pas assez de temps comme d'habitude dans cette émission. Carole Gomez, merci beaucoup. Il y aura encore tellement de choses à dire sur la géopolitique et le sport. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Avant de nous quitter, Amaya Cazenave, qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages de sport du Parisien?
Alors, entre autres, je vais aller très vite, un très chouette échange entre Fabio Quartararo et Gianluigi Donnarumma. Voilà, très bel échange qu'on a enregistré cette semaine. Et puis, on s'intéressera aussi au PSG de manière générale, où il n'y a plus grand chose qui va après ce nul hier à Lens qui a bien failli ressembler à une défaite.
Merci à Maya. Vous retrouverez aussi Frédéric Veil pour le Grand Prix de Formule 1 chez mes copains de RTL Foot après les informations.